Il est 2h du matin à Istanbul, 23h temps universel. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris où il est minuit. Le journal Christophe Drevet. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, l'opposition sort en masse dans la rue dans plusieurs villes de Turquie pour dénoncer l'arrestation du leader de l'opposition, Ekrem İmamoğlu. Le maire d'Istanbul a été arrêté pour corruption. Des incidents ont été signalés ce soir dans plusieurs villes. Les célébrations du Nowruz, le nouvel an kurde aux accents très politiques cette année. Malgré un espoir d'apaisement avec l'appel au PKK à déposer les armes, la Turquie poursuit ses bombardements. Nous retrouverons Lucas Lazo au Kurdistan irakien. Et puis ce signal fort envoyé par l'Allemagne à l'Ukraine, mais aussi à la Russie. 3 milliards d'euros d'aide militaire débloquée pour Kiev grâce à l'adoption d'un gigantesque plan de réarmement de l'Allemagne impulsé par le futur chancelier Friedrich Merz. Ils avaient appelé une nuit de la démocratie. En Turquie, l'opposition à Recep Tayyip Erdogan a organisé une grande manifestation à Istanbul ce vendredi soir pour dénoncer l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, également dans plusieurs autres villes du pays. Julien Chavanne, la mobilisation était massive et le climat tendu.
300 000 personnes étaient réunies dans le cortège à Istanbul, selon l'opposition, et cela malgré l'interdiction des autorités. Les manifestants avaient rendez-vous devant l'hôtel de ville, et sur les pancartes, on pouvait lire « N'ayez pas peur, le peuple est là », ou encore « Droit, loi et justice ». C'est le troisième jour de mobilisation. Le CHP, le parti du maire d'Istanbul, veut maintenir la pression. En face, les forces de l'ordre étaient déployées en masse. À Istanbul, les policiers ont tiré des balles en caoutchouc, et à Izmir, troisième ville du pays, les forces de l'ordre ont utiliser des canons à eau. On apprend aussi que le bâtonnier d'Istanbul et les membres de son conseil de l'ordre ont été démis de leurs fonctions ce vendredi, poursuivis pour propagande terroriste et diffusion publique de fausses informations. Le maire d'Istanbul, lui, est toujours en garde à vue, accusé de corruption et de terrorisme. Au sommet de l'État, Recep Tayyip Erdogan reste inflexible. La Turquie ne sera pas livrée à la terreur de la rue, a prévenu le président turc.
Julien Chavanne du service international de RFI. Et rappelons que le maire d'Istanbul devait en principe être intronisé ce dimanche comme candidat du CHP à l'occasion de la primaire pour la présidentielle de 2028 en Turquie. La Turquie, où l'apaisement, par ailleurs espéré sur le front kurde, se fait toujours attendre. 3 semaines après l'appel à la dissolution de la guérilla du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, par son chef Abdullah Öcalan, les bombardements turcs se poursuivent sur les positions des insurgés en Irak et en Syrie. C'est dans cette atmosphère pour le moins tendue que les célébrations du Nouvel An kurde y ont pris une tournure très politique. Correspondance à Erbil, dans le nord de l'Irak, de Luca Lazo.
De Kobané, symbole du nord-est syrien pour sa résistance face à Daesh, aux vallées escarpées des monts Kandil, bastion du PKK au Kurdistan irakien, des milliers de sympathisants de la résistance kurde se sont rassemblés ce jeudi pour célébrer le nouvel an kurde. Une fête de Nowruz, forcément très politique, après l'appel d'Abdullah Öcalan fin février à dissoudre cette guérilla qu'il a fondée dans les années 70 pour défendre les droits des Kurdes de Turquie, mais dont les combats se sont depuis diffusés en Syrie, en Irak et en Iran. Ces célébrations se sont ouvertes partout par un hommage aux 9 membres d'une même famille tués par un bombardement turc 4 jours plus tôt à Kobané justement, comme un rappel qu'à ce jour la Turquie n'a pas saisi la main tendue d'Abdullah Öcalan. Nowruz, cette année, c'est également un mot d'ordre, une condition, la libération du fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, condamné par la Turquie en 1999 à une peine de prison à perpétuité pour terrorisme. Une fois n'est pas coutume, les autorités du Kurdistan irakien, associées à la Turquie dans son combat contre le PKK, ont elles aussi publiquement appelé à la libération du leader kurde. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
Au Proche-Orient, Israël proche d'une crise institutionnelle. Après la décision du Premier ministre Netanyahou de limoger le chef du service de sécurité intérieure, le Shin Bet, la Cour suprême d'Israël a suspendu ce vendredi la décision inédite de limoger Ronen Bar, votée par le gouvernement. En attendant, la procureure générale a interdit à l'exécutif de nommer un nouveau chef du Shin Bet, interdiction rejetée par Benjamin Netanyahou. Le président israélien Isaac Herzog a lui déploré certaines initiatives controversées, créant, je cite, de profonds clivages au sein de la société israélienne. Nouvelles frappes américaines au Yémen, c'est un média proche des rebelles houthis qui l'affirme. Selon la chaîne Al-Masira, des frappes ont eu lieu sur un fief des rebelles soutenu par l'Iran dans le nord du pays. Pas de bilan précis cette fois-ci, mais les houthis ont signalé plusieurs attaques américaines depuis les bombardements de samedi dernier par les États-Unis qui auraient fait une cinquantaine de morts, dont plusieurs chefs houthis selon Washington. Les rebelles yéménites qui depuis ont revendiqué, quant à eux, plusieurs attaques en mer Rouge sur un porte-avions américain. Et puis dans le même temps, l'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen. Les sirènes d'alerte anti-aérienne avaient été déclenchées ce soir à Jérusalem et dans plusieurs zones du centre d'Israël. Et puis dans le dossier terrorisme, la cour d'assises spéciale de Paris a condamné tout à l'heure Mehdi Nemmouche à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle l'a reconnu coupable d'avoir été le geôlier d'otages occidentaux et syriens pour le compte du groupe État islamique en 2013 et 2014. Mehdi Nemmouche, qui purge déjà une peine de réclusion à perpétuité pour l'attentat du musée juif de Bruxelles, où il avait abattu 4 personnes en 2014. Il a reconnu avoir été un terroriste et ne jamais vouloir s'excuser. Un signal fort envoyé à l'Ukraine, mais aussi à la Russie et aux États-Unis. Après 3 mois de blocage, l'Allemagne a annoncé ce vendredi avoir approuvé une nouvelle enveloppe d'aide militaire d'un montant de 3 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Une aide qui s'ajoute aux 4 milliards d'euros d'aide militaire qui était déjà prévue dans le budget de 2025 pour Kiev. Une preuve de l'engagement européen à quelques jours de pourparlers entre Washington, Moscou et Kiev afin de tenter de trouver un accord sur une trêve. Romain Lemaresquier.
Après 3 mois de blocage de la part du chancelier sortant Olaf Scholz, qui avait émis des réserves quant à cette aide étant donné la situation budgétaire du pays, la commission budgétaire du Bundestag et la chambre basse du Parlement ont donc donné leur feu vert à cette nouvelle aide militaire de 3 milliards d'euros en faveur de Kiev. Un feu vert donné le jour où le Parlement allemand a également donné son feu vert à la réforme du frein à l'endettement. Désormais, l'Allemagne dispose de nouvelles marges de manœuvre pour financer son réarmement et octroyer des prêts. Cette aide supplémentaire doit permettre à l'Ukraine de se fournir immédiatement en munitions et lui permettra d'obtenir plus d'armes qui doivent encore être produites dans les mois à venir, notamment des systèmes de défense anti-aérienne. Par ailleurs, les autorités allemandes ont tenu à rassurer l'allié américain en confirmant sa commande d'avions de combat F-35, mettant ainsi un terme au débat qui agitait la presse allemande ces derniers jours. En 2022, après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, Berlin avait lancé un projet d'achat de 35 F-35, mais si l'Allemagne a bien confirmé cet achat, son futur chancelier, le conservateur Friedrich Merz, a déjà annoncé que désormais, et si possible, Berlin achèterait en priorité du matériel européen.
Romain Lemaresquier, rappelons donc que les pourparlers doivent reprendre en Arabie Saoudite lundi prochain. Des discussions sont prévues entre Ukrainiens et Américains d'un côté et entre Russes et Américains de l'autre. Bientôt minuit et 8 minutes à Londres, l'aéroport londonien Heathrow a annoncé ce vendredi la reprise de certains vols en soirée. Le plus grand hub aéroportuaire d'Europe a été fermé toute la journée en raison d'une panne d'électricité provoquée par un incendie. Les perturbations risquent de perdurer encore ce samedi au sein de l'aéroport. L'incident a eu des répercussions dans le trafic aérien mondial. Selon les pompiers de Londres, l'incendie dans le poste de transformation électrique qui a causé une coupure d'électricité ne semble pas suspect. Du cinéma pour terminer ce journal, une nouvelle comédie avec Jean-Pascal Zadi dans Prosper de Johan Glohagen. L'acteur nous embarque dans une comédie sur la sapologie congolaise, une comédie dans laquelle vengeance et possession vaudou s'entremêlent avec panache. Elisabeth Le Quéret nous entraîne dans l'atmosphère de ce film.
C'est bien lui.
C'est bien lui quoi ?
Tyrannisé par sa mère, baladé par son ex, timide voire empoté, Prosper est un gentil garçon qui gagne sa vie péniblement comme chauffeur de VTC. Tout bascule quand il vole les bottines en croco d'un client mort dans son taxi. Prosper, le loser, se transforme alors en king, flamboyant roi de la sape et chef d'une petite mafia de truands congolais.
Et moi, on va aller chercher le zoba qui m'a fait ça.
Le film jongle habilement avec la double personnalité du héros, augmentée d'une touche de magie qui nourrit situation loufoque et quiproquo.
C'est toi qui m'as fait ça ?
Non, c'est pas moi.
Selon un modèle qui trouve à son apogée commercial dans les années 80 avec Black Mic Mac.
L'argent, il est où ? Espèce de fils de pute.
Hey ! Non, pardon, madame, pardon.
Moins convaincant. Sur le registre du fantastique, le film l'est beaucoup plus lorsqu'il lorgne du côté de la comédie à l'italienne, transposée dans le milieu des sapeurs, du sur-mesure pour Jean-Pascal Zadi.
Un mot de tennis pour terminer. La numéro 2 mondiale, Iga Swiatek, et le Norvégien Casper Ruud se sont qualifiés pour le troisième tour du tournoi de Miami. Un troisième tour dont l'Australien Nick Kyrgios a lui été privé par le Russe Karen Khachanov. Il est 10:30 à Paris, une heure de moins en temps universel. Merci d'avoir écouté ce journal.